Chapitre 3. Quand, après une nuit d'un sommeil sans cesse interrompu par la fièvre nerveuse de l'anxiété, Bassini se réveilla dans l'appartement d'hôtel qu'il s'était choisi à cause de son silence, les fenêtres données sur une des rues paisibles qui avoisinent les Tuileries, il s'étonna de se sentir si calme, si peu hésitant, presque serein. Il ne se retrouvait plus, comme tous les matins, devant cette « à quoi bon ?» qui, depuis tant de mois, doublait son chagrin d'ennui. Il y a un art de souffrir, et que les nécessités de la vie enseignent aux humbles en leur imposant la servitude de la besogne quotidienne. Il consiste à continuer d'agir tout simplement. L'idée de l'acte à exécuter s'interpose alors entre notre malheur et nous. Elle s'y substitue presque à notre insu. Notre attention, dérivée de la sorte, ne saisit plus, avec la même acuité obsédante et complaisante, le détail de ce qui nous accable. Pour la première fois depuis le dernier de ces trois deuils, le veuf méditait sur un objet autre que sa misère et que la solitude dévastée de son foyer. Comment accomplirait-il la résolution prise la veille et que dirait-il à Madame Janson ? De biaiser, d'atermoyer, de reculer devant ce devoir, il n'en admettait même plus l'hypothèse. Bassini était loin de posséder un de ces caractères entiers qui ne connaissent ni ondoiement ni volte-face dans une décision une fois adoptée, une de ces âmes d'une pièce, suivant la très exacte expression populaire, chez qui la certitude intime ne vacille jamais. Il avait toujours senti, au contraire, les secrètes faiblesses des êtres trop tendres que leurs impressions conduisent plus que leurs réflexions et qui changent de dessein au gré de leur changeante sensibilité. De tels esprits ne sont incertains que par leur émotivité. Ils déploient une invincible énergie quand une passion fixe les soutient et les soulève, et le vrai père de Nicole ne soupçonnait pas lui-même quelle réserve d'amour il gardait en lui au service de cette fille qu'il s'était obstiné à ne pas connaître pendant des années, par scrupule et avec remords tout ensemble. Ces combinaisons de sentiments contradictoires sont quotidiennes dans les situations très fausses. La révélation que son enfant courait le plus grand danger moral avait, du coup, comme réuni en un faisceau, comme précipité en un seul jet, toutes ses puissances, toutes ses virtualités de dévouement, si l'on peut dire, et voilà pourquoi aucun recul ne lui était plus possible, quoique cette œuvre d'un bien chimérique sauvetage exigeant, pour seulement la commencer, une de ces démarches qui font songer à une légende poignante du Moyen-Âge, celle du mort qui doit, pour son purgatoire, reprendre tous les chemins qu'il a suivis sur la terre et lui-même effacer le vestige de ses pieds. Il y avait des années que Bassini ne déposait même plus de cartes à l'hôtel de la rue de Montalivet où habitaient les Janson. Mais le plus ou moins de froideur dans l'accueil de son ancienne maîtresse n'était pas ce qu'il appréhendait. En réalité, au moment d'engager avec elle un entretien, à l'issue duquel il attachait une tragique importance, il se rendait compte qu'il ne la connaissait plus. Le mal qu'il avait entendu dire d'elle depuis des années, il avait appliqué à une ombre sans corps, à un être de raison, à cette Madame Janson de moins de 30 ans que son souvenir voyait telle qu'elle avait été et non telle qu'elle était devenue. Il l'avait méprisée de ses actes sans rien savoir des profondes modifications que la vie avait dû, malgré tout, imposer à ce caractère. Dans quel sens s'était développée cette nature qu'il se rappelait légère, frivole, bonne d'une bonté toute sensuelle et, en somme, presque irresponsable? Il voulut se persuader que, sur un point, celui de l'amour maternel, cette bonté facile s'était changée en un dévouement sincère, et ce fut avec un mélange de courage et de timidité, de confiance et de rancœur, qu'il s'achemina vers la rue de Montalivet, aux alentours de 2h30. On ne refait pas des pèlerinages de cette sorte sans que les joies et les tristesses du passé ne surgissent de chaque pavé. Bassini avait voulu marcher pour tromper son agitation par ce rien d'exercice. Il se souvenait d'avoir jadis et si souvent pris et repris ce chemin avec des émotions si différentes, précisément à l'époque de la naissance de Nicole. Qui lui eût dit Qui leur eût dit alors, à Claire Janson et à lui, que cet enfant, dont la venue les liait d'un lien de mystère plus étroit encore, grandirait, sans peut-être savoir son nom à lui, sans qu'il pût même lui montrer cette amitié d'amis de la maison, sous le couvert de laquelle les paternités clandestines assouvissent leurs appétits de tendresse, douloureusement, honteusement. Dans ces temps lointains, Bassigny allait d'habitude à l'hôtel Janson vers 5h30. Il était certain d'avoir là, avec son ami, une heure de tête-à-tête. Pour s'assurer la liberté de cette fin de journée, la corvée des visites une fois finie, la prudente parisienne laissait sa porte ouverte après déjeuner. Après 25 ans, l'ancien amant supposait que la politique privée de son ancienne maîtresse demeurait la même, et il comptait sur cette particularité pour être reçu, bien décidé, s'il rencontrait d'autres visiteurs, à rester le dernier. Il aurait pu demander par lettre un rendez-vous qui ne lui aurait sans doute pas été refusé. Il avait préféré ne pas même courir cette chance et il accepta, comme un présage de réussite finale, la réponse du concierge à sa question que Madame recevait. Il traversa la cour, annoncé comme jadis par les deux coups de cloche dont le son reconnu fit battre son cœur. Son émotion, déjà profonde, s'accrut à constater combien peu avait changé l'aspect de l'antichambre et du premier grand salon par où on l'introduisit. Les années avaient seulement infligé à l'arrangement de ces pièces, meublées dans le goût du Second Empire, avec un abus d'étoffes, de capitons et de tentures, une indéfinissable physionomie de choses déjà démodées. Dans ce salon du rez-de-chaussée, dont les portes-fenêtres ouvraient sur la verdure maintenant jaunie d'un jardin, se voyait un portrait en pied de Madame Janson, par Cabanel, traité dans une manière habile, élégante et froide. Cette peinture augmentait cette impression d'ancienneté, de prestige aboli, de grâce fanée, à cause de la toilette, copiée par l'artiste, avec d'autant plus d'exactitude qu'il avait voulu, dans cette toile, lutter de rendu avec les plus brillants virtuoses de l'étoffe. C'était un contraste d'une ironie presque sinistre. Dans le petit salon attenant au premier, la femme, vivante encore, mais aujourd'hui âgée, et qui, jeune, avait posé pour ce portrait. Cette héroïne, de tant d'aventures fameuses dans la chronique des clubs, était assise sur un canapé, la chevelure plus noire qu'à l'époque où le peintre attitré des beautés d'avant 1870 fixait son image, les lèvres rouges, les sourcils et les paupières faites, le visage comme recrépi à coups de savantes préparations. Elle portait une robe taillée pour la chambre, en mousseline de soie plissée, d'un vert d'eau très tendre, et le choix de l'étoffe, celui de la coupe, destinée à mouler une taille restée souple et mince au regard par l'artifice d'un incomparable corset, les frisons compliqués de la chevelure, l'abus des bijoux, 20 détails révélés dans cette créature, l'acharnement à ne pas vieillir, le caricatural replâtrage d'une beauté irréparablement détruite. Elle lisait un volume jaune, le dernier roman sentimental, qu'elle reposa sur une petite table laquée quand la porte s'ouvrit. Elle attendait évidemment, dans cette parure, et parmi les fleurs qui décoraient ce boudoir retiré, un visiteur tout autre. Elle reconnut aussitôt le nouveau venu avec une légère émotion, vite comprimée, car sa voix, qui, elle, restait malgré l'âge, musicale et douce comme autrefois, ne tremblait pas trop pour lui dire « Comment, vous ici? Ah, mon cher Bassigny, avouez que j'ai le droit d'être un peu surprise. » Elle avait, en prononçant ces mots, le sourire et le geste les plus accueillants, et comme il paraissait, lui, plus troublé qu'elle, gracieusement, elle lui tendit la main, en amie, sans hésiter, une main au petit doigt de laquelle brillait le chaton d'une de ses bagues, où se complait l'enfantillage romanesque des liaisons cachées, deux serpents enlacés qui juxtaposaient leurs têtes de rubis et de saphirs. Un parfum presque trop fort, où le chypre et l'ambre se mariaient aux white roses, émanait d'elle à chacun de ses mouvements. L'homme aux cheveux blancs, aux temples marqués et dégarnis, aux joues creusées, au teint gris, qui s'asseyait en face d'elle, offrait une antithèse si frappante avec son ancienne maîtresse qu'ils la sentirent tous deux simultanément, et ils demeurèrent quelques secondes à se regarder, d'un regard également étonné, également attristé. Il la plaignait, lui, de ne pas savoir vieillir, il entrevoyait un si lamentable prolongement de galanterie par-delà cette coquetterie d'arrière-saison. Elle le plaignait, elle, d'avoir tant vieilli, et comme elle avait, pareil à la plupart des femmes qui ont trop aimé l'amour, une grosse et banale sensibilité d'être assez simple, elle lui dit, avec l'élan de cette très réelle pitié, « Mon pauvre ami, je sais que vous avez été bien cruellement éprouvé. Je vous aurais écrit si j'avais cru que vous vous souveniez encore de moi et que ma sympathie pouvait vous être douce. Je me suis tue par discrétion. J'ignorais même que vous fussiez à Paris. » « Je vous remercie d'avoir pensé à me dire ces bonnes paroles, » répondit Bassini. « J'ai toujours été un peu sauvage, vous savez, et je me serais reproché d'imposer mes tristesses aux personnes qui veulent bien se rappeler mon existence. Quand on se sent de trop, il faut disparaître. »« Vous n'auriez jamais été de trop dans ma vie, » répliqua-t-elle. « C'est vous qui n'avez pas voulu de l'amitié que j'étais si prête à avoir pour vous. » Et elle ajouta, en soulignant ce petit reproche de femme par l'accent appuyé de sa voix, « Et pour votre ménage ?»« Laissons cela, » interrompit-il, avec une nervosité mal dissimulée. Beaucoup de raisons, et qui tiennent aux lois les plus profondes de l'âme humaine, empêchent les anciens amants de reprendre des relations autres que les superficielles après une rupture. Une des plus fortes est l'irréductible différence qui sépare le point de vue masculin et celui de la femme pour ce qui touche aux choses de l'amour. Bassini avait beau être supérieur par sa hauteur d'âme à la moyenne de son monde, il n'en sentait pas moins en lui cet instinctif mépris de l'homme pour la maîtresse qui s'est donnée à lui hors du mariage, parmi tous les traits de l'égoïsme viril, le plus triste peut-être, mais le plus constant. Cette allusion à sa femme, dans la bouche de son ancienne maîtresse, venait de froisser cette corde intime. Il se domina pourtant, et sans transition, car devant l'attitude de son interlocutrice, le motif de ce pénible entretien se représentait à lui avec une force extrême. « Je ne suis pas venu pour vous parler de moi, » dit-il. « Je suis venu, » et sa voix se fit sourde, tout ensemble, et décidée, « pour vous parler de Nicole. » « De Madame de Moniaud, » répondit la mère. Elle était trop fine pour n'avoir pas senti le retrait en arrière de Bassini, son mouvement de compassion à l'entrée de cet homme si visiblement vieilli, épuisé de chagrin, misérable, s'était arrêté du coup. Elle continua, sur un ton d'ironie très souligné, « Vous vous êtes donc décidé de penser à elle ? Là encore, savez-vous que j'aurai le droit de juger sévèrement votre cœur ? Heureusement, je l'ai aimée et gâtée pour deux. Je l'ai bien mariée. Elle a un intérieur charmant, un fils qu'elle adore, et elle est contente. Si vous avez désiré savoir enfin ce qu'elle est devenue, vous le savez. » Nous ne nous comprenons pas, fit-il avec mélancolie cette fois. Vous avez mis de l'aigreur dans votre réponse et de la dureté. À quoi bon ? Ce n'est pas pour vous demander des nouvelles de Nicole que j'ai essayé de vous voir. « Je crois que vous avez été et que vous êtes une très tendre mère avec vos idées qui ne sont peut-être pas les miennes, mais une tendre mère. Oui, je le crois, je le sais. Voilà pourquoi j'ai voulu vous raconter moi-même la scène à laquelle j'ai assisté hier au soir. Vous serez peut-être plus indulgente alors pour le sentiment qui m'anime. J'étais au cercle dans un petit salon du premier étage. Deux jeunes gens sont entrés qui ne me voyaient pas. Ils avaient trop bien dîné. Se croyant seuls, ils ont causé tout haut, et moi, qui ai entendu leur confidence, je viens vous dire qu'un de ces deux garçons se prétend amoureux de Nicole et à la veille de réussir auprès d'elle. Et j'ajoute, non, votre fille n'est pas bien mariée. Non, elle n'est pas heureuse. Non, son intérieur et son fils ne lui suffisent plus, elle s'est laissée faire la cour par un drôle, et elle est sur le point de le prendre comme amant. « Elle, un amant ?» s'écria Madame Janson. « Nicole, allons donc, ce n'est pas vrai, je connais ma fille, je vous jure que ce n'est pas vrai. »« Et moi, je vous jure que c'est vrai, » répondit Bassini, que la spontanéité de ce cri de révolte avait touché. Il ne remarqua même pas l'anomalie de conscience grâce à laquelle cette femme notoirement galante et qui, à 50 ans, avait encore des aventures, se rebeller contre la seule idée que sa fille fût soupçonnée de n'être pas irréprochable. Il vit qu'il remuait dans ce cœur de mère, si corrompu d'autre part, une fibre profonde, et il insista. « Pour que je sois ici, à vous parler comme je fais d'une enfant que j'ai souhaité ne jamais revoir, comprenez que je ne vous mens pas. Je vous jure, je vous le répète, que j'ai entendu cet homme qui lui fait la cour se vanter de son intimité avec elle, comme je vous entends, et en donner des preuves. » « Et moi, fit de nouveau la mère, je vous répète que ce n'est pas vrai, que cet homme-là s'est vanté. Son nom, dites-moi son nom seulement. » « Il s'appelle le vicomte de Portille, » dit le père. « Maxime !» exclama Madame Janson, et ce visage de vieille coquette traduisit tant d'étonnement et de trouble que Bassini eût pu croire qu'elle aimait elle aussi le jeune homme et qu'elle était la rivale de sa fille s'il ne s'était rappelé de quel ton les deux indiscrets avaient parlé de la bonne maman Janson. Et elle répétait « Maxime de Portille a dit qu'il faisait la cour à Nicole, qu'elle s'y prêtait » et qu'elle était sur le point de devenir sa maîtresse. Le misérable a menti, il a menti, il a menti. Il n'a pas menti, reprit Bassini avec une impérative solennité. Mais il dépend de vous qu'il ait menti. Comment cela ? Demanda-t-elle. Il vous suffira, dit-il, d'éclairer Madame de Moniaud sur le compte de cet homme en lui racontant cette abominable indiscrétion aussi franchement que je vous la raconte. Elle est si jeune. Ce que vous venez de m'en dire me prouve que vous avez avec elle des rapports très intimes. Si intimes, interrompit la mère, que je ne puis pas croire qu'elle se soit cachée de moi. Quand vous lui révélerez la manière dont ce Portille parle d'elle, continua Bassini, sans relever l'étrange naïveté de cette exclamation, il est impossible qu'elle n'ait pas, elle aussi, un mouvement d'indignation. Si vous le considérez, vous, comme incapable d'une pareille vilenie, c'est qu'il est un comédien, par conséquent capable d'avoir joué auprès d'elle à la passion romanesque. Renseignée par vous, elle verra où elle va, la légèreté du personnage, son cynisme, le mensonge des protestations sentimentales par lesquelles il l'a troublée. Elle se reprendra tout entière. Et si vous voulez qu'elle ne puisse pas douter que cet homme a parlé, dites-lui... Souvenez-vous bien de ce détail, dites-lui qu'il a montré, en s'en vantant, un souvenir qu'il tient d'elle. La nature de cet objet ne lui permettra pas l'équivoque. C'est un petit couteau d'or à couper les cigares, avec une date. Ajoutez qu'il a donné le nom de la rue où il a son appartement de rendez-vous, c'est la rue du Mont-Tabor. Avec ces deux détails, il n'est pas possible qu'elle ne soit pas convaincue. « Quelle infamie !» dit la mère de Nicole. « Mais quelle infamie !» Elle se tut une minute et Bassini vit passer sur son visage une expression pour lui inexplicable. Comment eût-il deviné que Maxime de Portille avait pour autre camarade intime Roland de Brève et que Madame Janson était depuis un an déjà la maîtresse de ce dernier ? Subitement, cette évidence venait d'apparaître à la mère galante. Si elle dénonçait à sa fille l'indiscrétion de Portille, ce garçon se vengerait en la dénonçant elle-même et son intrigue à cette fille dont elle avait toujours trompé la lucidité. Comment avait-elle, contre toute vraisemblance, maintenu Nicole dans cette illusion à l'égard de ses aventures ? C'était le secret d'une de ces roueries de foyer inadmissibles à ceux qui n'en suivent pas le détail année par année, presque jour par jour, et ces roueries-là ne sont pas toujours le résultat d'un calcul. Il faut rendre cette justice à cette femme, par exemple, instinctive dans ses vices comme dans ses qualités. Elle avait été bonne mère à sa façon, et sa grande habileté avait résidé dans cette tendresse qui aveuglait Nicole sur toutes les évidences. À ce respect de sa fille, si peu mérité par sa conduite vis-à-vis des hommes, si mérité par ses gâteries vis-à-vis de l'enfant, elle tenait sans doute profondément, car l'idée d'une accusation portée par Portille la fit s'écrier « Non, je ne peux pas employer ce moyen-là, c'est trop dangereux. Et si ce garçon vous a vu dans ce salon du cercle, s'il se rappelle qu'il a parlé devant vous, s'il se rend compte que vous seul avez pu m'avertir ?»« Eh bien, repartit Bassini, je suis là pour répondre de mes actes. » Et comment expliquerez-vous le motif qui vous aura décidé à revenir chez moi après des années? Et votre intérêt pour Nicole, comment l'expliquerez-vous encore? Non, il ne faut pas que Portier soupçonne seulement que je vous ai vu. Tout le monde n'a pas oublié que vous étiez mon ami le plus intime quand la petite est née. Vous avez peut-être raison, répondit-il. Que comptez-vous faire alors? Les plus simples moyens sont les meilleurs, fit Madame Janson. Je vais demander à son père. Elle se reprit, sentant que ce mot, appliqué à son mari, était très cruel pour celui qui l'écoutait. « Oui, je vais demander à Janson de parler à Moniaud. C'est la démarche la plus naturelle du monde et la plus efficace. Il lui dira que les assiduités de Portille auprès de Nicole ont fait causer, que lui, Moniaud, devrait les surveiller, avertir lui-même Nicole. Mon gendre a des défauts, mais c'est un homme droit et ferme. » Quand il aura dit à Nicole de ne plus recevoir Portille, elle commencera par crier un peu, par se révolter contre la tyrannie conjugale. Je les connais tous les deux, elle obéira. Ne voyant plus ce jeune homme que par hasard et se sentant surveillée, elle réfléchira. Alors seulement je pourrai intervenir et raconter ce que je tiens de vous et qui achèvera de couper court à ce caprice, si caprice il y a, car je vous répète que je continue à ne pas y croire. « Mais, dit-elle, j'ai entendu ouvrir la porte du grand salon. Changeons de sujet de conversation, on vient. » Son ouïe de femme habituée à étudier les moindres bruits de sa maison, afin de ne jamais être surprise dans des attitudes de familiarité, ne l'avait pas trompée. À peine venait-elle de prononcer cette parole d'avertissement et de s'y conformer en parlant du roman de Jacques Molland qu'elle avait sur la table, la porte s'ouvrit et l'ancien amant et l'ancienne maîtresse virent entrer la personne dont la présence entre deux faisait le plus troublant commentaire à la conversation ainsi interrompue. Nicole de Moniaud elle-même, Nicole, avec son jeune visage rieur et potelé, dans l'encadrement de sa toque de loutre et du haut col de sa jaquette pareille, Nicole, avec ses gestes et sa gaieté d'enfant comblé, la fine silhouette de ses jolis 25 ans, Nicole, avec son ignorance entière de la tragédie où elle allait jouer le premier rôle, Nicole, enfin, à qui sa mère présentait Bassini, sans qu'elle répondît à cette présentation autrement que par le signe de tête le plus banal, le plus indifférent. Et déjà, elle commençait à expliquer pourquoi elle était venue rue de Montalivet à cette heure-ci, et elle racontait une de ces journées de parisienne à la mode, si vide qu'elle justifie les femmes qui mènent cette vie-là d'avoir presque toutes des amants. Si elle ne relevait pas par l'intérêt d'une intrigue l'insipidité de leur corvée d'élégance, elle n'en supporterait pas l'ennui 24 heures durant. « Si je n'étais pas entrée t'embrasser, disait-elle à sa mère, sans prendre plus garde aux visiteurs inconnus, dont le nom ne devait évoquer un souvenir en elle que plus tard et à la réflexion, je ne t'aurais vue ni aujourd'hui ni demain. Demain, je chasse à cour à Compiègne toute la journée. J'étreine mon irlandaise Vérité. Quel drôle de nom pour une jument, pas? Elle est charmante, tu verras. » Dans cette saison où l'on commence à rentrer avec les essayages d'hiver, on n'a vraiment le temps de rien. Vois plutôt, j'ai déjeuné chez Alice Hurtrel qui m'avait manqué 3 fois et moi je l'avais manqué 2. Nous avons passé ensemble à l'exposition des chrysanthèmes. Adorable maman, adorable. Il faut que tu ailles les voir aujourd'hui même. Alice m'a jeté ici et tout à l'heure j'irai rue de la Paix pour voir un surtout Louis XVI. Puis rue Louis-le-Grand, un canapé Pompadour. Une tante d'Albert l'a chargée de choisir un cadeau de noces. Naturellement, quand un mari reçoit une commission de ce genre, il la passe à sa femme. C'est réglé comme du papier musique. Ensuite, je vais chez 2 couturières. 2 seulement, tu vois que je suis raisonnable cette année. Et puis, prendre le thé avec Germaine de Corcieux chez Colombin, et nous liquidons ensemble 2 ou 3 visites au galop, car je dîne à 7h15, tapant, au café anglais, pour aller au théâtre avec mon tyran et le ménage et Torel. Et le patron, il n'est pas là? J'aurais bien aimé l'embrasser aussi. » Tandis qu'elle parlait, Bassini la regardait avec une émotion si étrangement mélangée d'éléments contraires qu'il n'aurait pu dire si l'amertume l'emportait sur la douceur, le chagrin sur le ravissement. Il était près d'elle, près de cette fille dont il avait tant désiré, tant évité la rencontre. Malgré tout, une joie presque animale, profonde, irrésistible, émanait de cette seule présence. Il était pris d'une extase devant la grâce de ses gestes, devant sa beauté, une façon surtout qu'elle avait de cligner des yeux en avançant la tête qui la faisait ressembler davantage à la pauvre Hélène. En même temps, lui, le solitaire, et qui, depuis des années, vivait hors Paris, son cœur se serrait à constater combien la jeune femme était possédée par cette stérile fièvre de mouvement où l'intelligence se morcelle, où la sensibilité s'énerve, où la moralité s'use, et cette irréparable usure est la rançon de si misérables plaisirs. Mais, d'autre part, il tenait la preuve que ses hypothèses les plus optimistes y avaient vu juste. Visiblement, Nicole n'était jusqu'ici qu'étourdie et légère, et sans la moindre dépravation. Il y avait trop d'enfantillage dans ses sourires qui découvraient ses dents si blanches d'enfant, trop de clarté dans ses prunelles noires pour qu'elle ne gardât point un fond d'innocence, et c'était des riens encore qui faisaient à la fois peine et plaisir au vrai père, comme ces appellations irrespectueuses et argotiques de tyran, de patron, données par Nicole, l'une à son mari, l'autre à celui dont elle se croyait la fille. Enfin, toutes ces émotions réunies agirent sur les nerfs déjà ébranlés de cet homme d'une manière si violente qu'à une minute, il crut qu'il éclaterait en sanglots. L'altération de son visage devint telle qu'il redouta la divination de la jeune femme qui, à plusieurs reprises, l'avait considéré avec des yeux où il crut lire de la surprise. Il se leva pour prendre congé, en essayant à la fois de dominer cet attendrissement et d'empreindre pourtant, dans un dernier regard jeté sur Madame Janson, l'impérative énergie du conseil qu'il était venu lui donner. Celle-ci comprit, car elle lui dit adieu, en ajoutant ces paroles, intelligibles pour eux seuls. « Vous pouvez compter sur moi, cher ami, et la prochaine fois que vous viendrez, j'espère vous donner de bonnes nouvelles. » « Je l'espère aussi, » répondit-il, et il ajouta, « autrement, ce serait trop dommage. » Sans que celle, dont ces deux phrases résumaient l'imminente destinée, se doutât que sa mère et cet étranger parlaient d'elle. Son joli visage exprima, tandis qu'elle saluait le visiteur d'une inclination de sa blonde tête, l'amabilité indifférente d'une personne bien élevée à l'égard de quelqu'un qu'elle ne rencontrera peut-être plus, et, comme si le hasard se complaisait à augmenter le trouble de Bassigny, il croisa, en traversant le grand salon et devant le portrait de Cabanel, deux jeunes gens qui venaient rendre visite à Madame Janson. L'un était le petit Roland de Brève, dont Bassigny ne soupçonnait même pas le rôle dans la maison. Mais il se sentit pâlir à reconnaître l'autre, qui, l'ayant reconnu aussi, ne put retenir un geste de stupeur, et cet autre était Maxime de Portille. Nicole lui aura donné rendez-vous chez sa mère, songea Bassigny. Il n'était que temps que j'intervinsse. Il m'a reconnu. Il devinera qui s'est mis en travers de sa route. Ah, qu'il devine tout ce qu'il voudra, mais qu'elle soit sauvée de lui à tout prix.